Prendre le temps de lire, c'est la proposition qui vous est faite chaque semaine sur Radio Présence Pyrénées par Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Alors gardez le micro Sylvain, c'est à vous.
Alors, toujours pareil, on égrène les livres qui sont sortis pour cette rentrée d'hiver. Donc là, un livre qui est sorti il y a quelques semaines et dont j'ai envie de vous parler parce que c'est un beau coup de cœur, c'est un livre assez intéressant. Donc c'est le livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle « Juste après Dieu, il y a papa » aux éditions Albin Michel. Alors, bon, Éric Emmanuel Schmitt, il n'est plus à présenter, hein, quand même un auteur assez connu, qui a une cinquantaine de romans ou pièces de théâtre à son actif. Et donc, il avait déjà écrit un livre il y a quelques années sur sa relation à la musique et notamment à Mozart, puisqu'il est très admiratif et passionné de l'œuvre de ce grand compositeur qu'est Mozart. Et donc, là, il revient dans un livre assez court sur un aspect de la vie de Mozart bien précis et particulier et que j'ai trouvé très intéressant, à savoir les relations que Mozart a eues avec son père. Donc, parce que, effectivement, le titre vient de cette expression Wolfgang Amadeus Mozart, donc quand il était petit, disait à tout le monde, juste après Dieu, c'était une famille quand même religieuse, juste après Dieu, il y a papa. Parce qu'il avait une grande, grande admiration pour son père, donc Léopold de Mozart. Et donc là, Éric Emmanuel Schmitt alors nous raconte, c'est assez documenté parce qu'il connaît très bien, il s'est documenté, nous raconte donc la vie de Mozart et surtout les relations avec son père, donc depuis la plus tendre enfance, hein, l'âge de 4-5 ans, quand ils ont commencé à partir en tournée et faire la tournée donc des grandes capitales européennes, et puis bon, jusqu'au moment où le père donc de Mozart est décédé, donc la fin de la vie du père de Mozart. Donc sur quelques années, il va nous raconter cette relation. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que, d'abord, vous comprenez, comme le père l'a compris d'ailleurs, très rapidement, et ça on le savait, que dans les toutes premières années où Mozart a commencé à faire de la musique, son père était musicien, hein, professionnel, puisqu'il jouait à la cour, il a été maître de chapelle à Salzbourg, je crois, ou à Vienne. Donc il a appris la musique à ses enfants, la sœur de Mozart et à Mozart. Et vous voyez, et c'est ça qui est très intéressant, que très très rapidement son père a quand même compris le génie qu'il avait, parce qu'il a été, on le sait, très précoce, mais surtout il avait une capacité à la fois de création, mais d'oreille musicale. Notamment, il raconte un passage passionnant où ils sont à Rome et ils vont au Vatican assister à une messe. Et c'est un morceau de musique, en fait, religieux, qu'il était interdit de reproduire, il était interdit dans cette église, en écoutant la musique, de prendre des notes pour ensuite retranscrire cette partition. Et donc Mozart est tout jeune, hein, il a quelques années, il a 6 ou 7 ans ou 8 ans, il est avec son père, ils écoutent le concert qui est assez long, ils sortent ensuite dîner avec des amis ou des connaissances, et pendant que son père dîne, il ne se rend pas compte que Mozart prend un petit carnet, est en train de retranscrire dans l'intégralité du concert qu'ils viennent de voir d'une heure et demie. Il a 7 ans et pour lui c'est une évidence, il a saisi absolument tout. Voilà, donc ça vous le voyez rapidement, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est aussi un livre, alors où on apprend plein de choses, mais c'est aussi une réflexion sur la filiation et la relation père-fils, parce que, et je ne vais pas en dire trop, il faut le découvrir dans la lecture, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que malheureusement, pour le père de Mozart, petit, il a eu une grande admiration pour son père, et ensuite, petit à petit, il a rapidement compris la différence. Et il a rapidement compris les limites musicales de son père, mais d'ailleurs les limites musicales de tout son entourage, puisqu'il avait assez peu d'admiration pour la musique qu'il pouvait entendre autour de lui. Et donc, du coup, on voit une relation qui, notamment sur la fin de la vie de son père, a complètement changé et est devenue assez difficile et conflictuelle. et douloureuse. Voilà, donc c'est vraiment moi un livre que j'ai trouvé. Alors c'est un livre assez court. Ce sont des, c'est pas exhaustif hein, sur la vie de Mozart. C'est vraiment un aspect particulier, mais je trouve que c'est un aspect particulièrement intéressant et que j'ai trouvé très très bien traité. Et on y apprend aussi plein de choses sur leur voyage, les contacts qu'ils ont pu avoir. Et donc vraiment c'est pour les personnes qui souhaitent effectivement connaître un petit peu plus de choses sur ce grand compositeur, je trouve que c'est un livre, enfin en tout cas moi, qui m'a beaucoup intéressé. Alors je répète le titre, donc « Juste après Dieu, il y a papa » d'Éric Emmanuel Schmitt, et c'est aux éditions Albin Michel.
Et après on écoute du Mozart.
Exactement, il faut le lire en écoutant du Mozart d'ailleurs, oui, je suis entièrement d'accord.
Merci Sylvain, tout de suite pour votre second choix, et Christelle.
Merci, alors moi un nouveau coup de cœur, et un nouveau coup de cœur surtout pour Charlotte McConaghy avec son dernier opus, Les fantômes de Shearwater, chez Actes Sud dans la collection Gaïa. Alors quand je dis un nouveau coup de cœur pour cette autrice, c'est vraiment une autrice, voilà, moi que je découvre, qui a écrit, je crois, 3 romans à ce jour, et j'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé le précédent, qui sort d'ailleurs aussi en poche et qui s'appelle « Je pleure encore la beauté du monde ». Donc j'invite aussi les lectrices et lecteurs à la découvrir avec ce roman. Donc un nouveau roman, « Les fantômes de Shearwater ». Et un roman vraiment qu'on ne lâche pas et qui... Souvent on vous dit ça, mais c'est vrai, vraiment, c'est des romans qu'on ne lâche pas, qui va vous emmener très très loin dans tous les sens du terme. Donc direction l'hémisphère sud, vraiment l'océan austral, une île vraiment perdue, une île isolée, une île battue par les vents, mais une île qui abrite la plus grande réserve de graines au monde. Alors, les rares scientifiques qui travaillaient sur cette île, on comprend que ces rares scientifiques viennent ou ont quitté les lieux en raison de la montée des eaux, un phénomène assez inexorable et dramatique. Et seul reste la famille Salt, Dominique, et ses 3 enfants, Ralph, Fenn et Orly. Et cette famille, eh bien, elle est la gardienne du phare. Alors, c'est un quotidien quand même assez extraordinaire, un quotidien hors norme que celui de cette famille. Et ce quotidien, voyez-vous, va être bouleversé par une jeune femme naufragée qui va être sauvée par Fenn. Alors, bien sûr, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse, bien sûr, découvrir ce roman dense. Et j'ajouterai quand même quelques mots, parce que la description de l'environnement joue un rôle déterminant, de mon point de vue, dans le côté addictif du roman. Hein, puisque évidemment on ressent le froid, le vent, l'humidité salée, les éléments déchaînés, mais aussi le silence entre les membres de cette famille, les étrangetés de tous et tous les événements passés que l'on découvre petit à petit. Donc c'est une écriture vibrante qui soutient à merveille une intrigue dure et émotionnellement chargée, truffée de mystères et de non-dits. Alors, éco-fiction, thriller, roman autour du vivant, roman familial, en fait, c'est un peu tout cela que Les fantômes de Shearwater, et c'est vraiment très, très réussi. Donc, avec un sens du récit, un suspense, l'épaisseur des personnages, une profondeur psychologique hors norme, une plume à la fois sensible et engagée, des thèmes universels comme l'amour familial, la transmission, le deuil, et l'écologie, qui est aussi au cœur du roman, eh bien font vraiment de ce dernier opus de Charlotte McConaghy un livre que l'on quitte à grand regret. Et c'est donc une grande, grande réussite et que je recommande vraiment chaleureusement. Donc, Les fantômes de Shearwater, Charlotte McConaghy, chez Actes Sud.
Merci Christelle. Dans un instant, votre second choix, comme pour Sylvain, ce sera pour la jeunesse. Hein. Sylvain.
Alors, ben moi, toujours un livre de poche. Alors, vous savez qu'on est toujours en train de lire la sélection du prix 10-18 des libraires. Donc, 10-18, la collection poche qu'on aime beaucoup. Donc, il y a deux sélections. Il y a une sélection polar et il y a une sélection littérature blanche. Et là, j'ai envie de vous parler d'un des ouvrages de la sélection que j'ai lu et beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle Le baiser de la demoiselle, sous-titre Histoire d'une femme décapitée par Kate Foster. Et c'est donc aux éditions 10-18 et c'est donc dans la sélection polar du prix 10-18 des libraires. Alors, Le baiser de la demoiselle, c'est vraiment un polar historique qui d'ailleurs, et c'est dit en introduction, est basé sur des faits réels et sur des personnages qui ont existé. Alors, nous sommes à Édimbourg en 1679 et on suit l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lady Christian et qui est une jeune femme de la bonne bourgeoisie qui est mariée à un homme commerçant et voilà, qui vit plutôt une vie assez aisée jusqu'au moment où elle va être soupçonnée et accusée et arrêtée pour le meurtre de son amant, mais c'est là que ça se corse, son amant qui n'est ni rien d'autre que son oncle également. Donc c'est une histoire assez étrange. Alors tout l'enjeu de ce roman, c'est de savoir si d'abord elle est coupable ou pas, et puis surtout si elle va échapper, et c'est le titre nous en donne une indication, si elle va échapper à ce qu'on appelle le baiser de la demoiselle, car figurez-vous que le baiser de la demoiselle, c'était comme cela que l'on désignait la guillotine en Écosse à cette époque. Voilà, on l'appelait la demoiselle et on disait le baiser de la demoiselle, c'était d'être guillotiné. Alors, moi j'ai bien aimé ce roman parce que déjà, bon, il est prenant, il vous plonge dans une époque, il vous plonge dans l'Édimbourg de 1679, et voilà, de cette bourgeoisie ou cette noblesse. Et puis, il y a des personnages assez intéressants. Alors, l'oncle, d'abord, très inquiétant parce que, juste, et je ne vais pas en dire trop, mais il faut savoir que c'est quand même un personnage assez inquiétant et assez, alors qu'il y a des mœurs plus que étranges et dissolues, puisque donc cette fameuse Lady Christian, qui est sa nièce, elle va être dénoncée par une autre personne qui est une maîtresse de son oncle, qui n'est autre qu'une prostituée et qui a été engagée au service de l'oncle et qui va dénoncer donc Lady Christian comme la meurtrière de cet homme. Homme qui est vraiment très peu recommandable. Hein. Voilà, donc vraiment moi j'ai bien aimé parce qu'il y a une vraie intrigue, il y a un vrai roman. Alors certes avec un arrière-plan historique, mais c'est un roman policier, il y a une intrigue. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pas toujours le cas dans les romans, et notamment les romans historiques, le rôle des femmes est particulièrement affirmé. Hein. Je parle de Lady Christian, mais je parle aussi de cette personne-là. Et il y a vraiment plusieurs rôles de femmes qui sont vraiment clés dans cette histoire et qui rendent donc voilà, ce polar particulièrement original. Alors, je sais pas, là, l'heure du vote va arriver. On a encore un ou deux livres à lire et je viens d'en commencer un autre qui peut... Alors, c'est pour ça. Je sais pas si je vais voter pour ce livre-là parce que je viens d'en commencer un autre. Alors là, qui se passe dans un autre... J'ai lu les premières pages, mais qui fait vraiment très envie, qui raconte, donc, on est au Québec, donc au Canada francophone, et vous avez deux voisines de 70 ans, amies, mais quand l'une décide de vendre sa maison et de déménager, l'autre a pour projet de la tuer, de l'assassiner, parce qu'elle est vraiment très frustrée que sa copine et complice de toujours décide de quitter ce petit village. Voilà, donc ça a l'air, j'ai commencé à lire les premières pages, et ça a l'air plus que surprenant et original. Voilà, je ne sais pas, on le dira de toute façon, on a jusqu'à la fin du mois, je crois, pour voter. donc on va faire notre choix après avoir lu, bien sûr, cette sélection, mais qui est très très bonne. Alors, je rappelle pour l'instant le titre de ce polar, Le baiser de la demoiselle, histoire d'une femme décapitée, de Kate Foster, aux éditions 10-18.
Merci Sylvain. Christelle.
Alors, moi je vais terminer avec, effectivement, un album jeunesse, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du Joyeux Abécédaire de Maria Jalibert aux éditions Didier Jeunesse. Alors voilà, j'avais envie de mettre en avant cet album, d'abord parce que je l'adore, je le trouve extrêmement réussi, mais aussi parce que vous savez qu'à Saint-Gaudens, cette semaine, c'est la 4e édition du Festival de littérature jeunesse, Vitamine L, et que Maria Jalibert fait partie des autrices illustratrices invitées et qui plus est, fait l'objet donc d'une exposition au musée de Saint-Gaudens. Voilà, donc vraiment plein d'occasions de découvrir son univers, mais aussi de la rencontrer ce samedi à l'auditorium de la médiathèque. Alors, le Joyeux Abécédaire, donc vous savez ce que c'est qu'un abécédaire, Eric, et celui-ci, alors il est vraiment... Alors, moi j'adore son univers. Alors d'abord, c'est extrêmement coloré, mais vraiment, et des couleurs qui pètent, hein, comme on dit. Il a un petit côté, finalement, un petit côté vintage. Alors, c'est aussi peut-être ce qui fait que ça me plaît. Et parce qu'en fait, elle l'utilise. C'est pas vraiment du dessin. En fait, là, ce sont des petits objets, alors qui vont du Lego au mécano, à des petits objets qu'on pouvait trouver dans les Kinder Surprise, par exemple, à de la dinette, des petits objets qu'on utilise quand on est petit et qu'on va à la plage, les petites voitures avec lesquelles on jouait, on les faisait rouler là dans le parking ou sur un circuit. Donc elle utilise tous ces petits objets, alors multitude de petits objets, donc pour illustrer son abécédaire. Donc ça, c'est le côté illustration, c'est son univers. Et puis après, effectivement, il y a les légendes. Et alors là, j'adore, parce que c'est très, très réussi pour les enfants, parce qu'il y a ces phénomènes. Oui, alors on est sur le C. Alors le C, donc vous voyez, il y a un cocorico, et vous voyez, typiquement, c'est ces petites fleurs voilà, qu'on utilise. Alors, il y a quelques années aussi pour faire des colliers. Là, on voit une espèce de loup, des petits cyclistes qui, je pense, étaient dans des Kinder Surprise. Et alors, par exemple, si on est sur le C, alors on voit les petites fleurs qui forment un C. On voit le coq qui fait cocorico. Et alors après, vous voyez, par exemple, on a un coq sur la casquette du capitaine. Ou alors une cuillère de carottes pour la coccinelle, ou un chevalier combattant un chien colossal, ou un caniche crâneur dans une calèche, ou encore des cyclistes de toutes les couleurs, ou encore une conversation du chat et du chameau. Voilà. Donc vous voyez, c'est cet univers...
Sur un croissant en plus.
Sur un croissant, un univers vraiment... extrêmement original et vraiment très très foisonnant en vocabulaire et extrêmement original encore une fois dans l'illustration. Encore peut-être un dernier, si je vais sur le A, alors vous voyez, on a une espèce de mécano qui fait la lettre A, on a un petit éléphant qui éternue. Eh bien, c'est pour illustrer le hatchoum. Mais on a aussi un abruti accroché à un avion. On a des animaux assis sur une asperge ou des autruches dans un arbre ou des australopithèques attaquant un appareil photo. Ou même, allez, encore plus drôle, une aubergine sur attelage. Voilà, donc vraiment un abécédaire extrêmement original. Si vous êtes parent, grand-parent, enseignant, oncle, tante et que vous avez envie d'offrir un abécédaire, eh bien, à une très jeune lectrice ou un jeune lecteur, eh bien, moi, je vous recommande le joyeux abécédaire parce qu'effectivement, c'est joyeux. C'est plein de couleurs, plein d'originalité, plein de vocabulaire et l'enfant va passer vraiment un très, très, très bon moment. Donc, le joyeux abécédaire de Maria Jalibert aux éditions Didier Jeunesse et surtout, surtout, ne pas oublier possibilité de rencontrer Maria Jalibert ce samedi, toute la journée, hein, à l'auditorium de la médiathèque de Saint-Gaudens. Et ça peut être aussi l'occasion, lors de votre venue, de partir quelques mètres plus loin et de visiter l'expo qui lui est en partie consacrée au musée.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens.